Le 10 mai 97, deuxième cours.
Intelligent. naturelle sensible. On y revient toujours. Ceci est jugement d'existence. Et le dépassement de ce jugement d'existence par la saisie des principes, par l'abstraction, et qui d'une certaine manière est infini. Personne n'oserait dire que il connaît tout ce qu'il pourrait connaître. Il y a une capacité de connaissance dans notre intelligence qui est quasi infinie. Mais ce qui n'empêche pas certaines vérités. Oui, on retrouve toujours le problème fondamental de l'être et du devenir, qu'on retrouve au niveau de la vie spirituelle, la vérité correspondant à l'être et la croissance correspondant au devenir. nécessaire, analogue au sommeil, vous voyez, pour la vie végétative. Il y a un besoin de repos. C'est très curieux et c'est ça qui est en péril dans notre monde aujourd'hui, à cause d'une recherche d'efficacité qui est une prise de possession. C'est le pouvoir qui dépasse l'autorité. C'est curieux de retrouver perpétuellement ces deux aspects. Il y a une autorité du fait même qu'on acquiert la vérité. On a une certaine autorité. Pas une autorité simplitudaire, mais une certaine autorité. L'autorité de compétence. Un homme compétent, un psychologue qui connaît parfaitement sa psychologie, connaît tous les méandres du développement humain. Se faire de plus en plus et elle se maintient avec un souci de contemplation à des niveaux très différents. La vraie contemplation ne peut être que lorsqu'on touche le terme qui, pour celui qui a découvert l'être premier, qu'on appelle Dieu, c'est la contemplation de Dieu. Mais il y a une certaine contemplation de l'ami, une certaine contemplation de l'homme. Quand on aime profondément quelqu'un, il y a un dépassement de la connaissance par l'amour et un certain repos, une certaine contemplation. C'est nécessaire pour à travers tout aimer l'homme. Quand il n'y a jamais eu cette contemplation, on risque de ne voir que ses limites et ses défauts. Alors on devient terriblement exigeant. Et on exige trop de l'homme, oubliant ses limites. Et cette recherche de la vérité me semble capital pour découvrir ce que c'est que la personne humaine. La personne humaine implique cette recherche de la vérité. Et c'est l'affrontement constant de ce que je connais, de ce que je pense connaître, ce que je crois connaître, et la réalité. Parce qu'en fond, ma connaissance n'est vraie que quand elle est conforme à la réalité. Son degré de vérité, c'est son degré de conformité avec la réalité. C'est la vie. ce qui n'est pas mesurable n'existe pas. Alors là, c'est toute la querelle si importante entre quantité et qualité que la dialectique moderne risque de supprimer. Dans une position hegélienne, il n'y a pas de distinction réelle entre qualité et quantité. Il y a des moments dialectiques. Tandis que si je regarde l'homme, je distingue son corps et son âme. J'arrive à cela. C'est pas évident. Ça m'est pas donné sur un plateau, l'âme et le corps. Mais ça m'est donné dans une analyse de plus en plus poussée de ce qu'est l'homme. Parce que la passion nous joue des tours, alors on désire la supprimer. Et il faut aimer la passion pour pouvoir la régler de l'intérieur. Là encore, vous voyez, autorité et pouvoir, le pouvoir tyrannique sur la passion fait des refoulements terribles. Le pater familias. Symboliquement le pater familial qui a le droit de mot de tuer son fils. Alors la vengeance, le fils tue le père. On comprend très bien ce mouvement dialectique. Il faut découvrir l'origine de la passion. Oui, cette extrêmement intéressant. sur le péché capital de chaque culture européenne pour mieux découvrir comment il peut y avoir quelque chose qui les unit. Parce que les péchés capitaux, c'est toujours égocentrique. Alors vous ne pourrez jamais unir le péché capital de la France et de l'Allemagne. Jamais! À la droite. C'est très curieux. C'est comme ça. À Fribourg, professeur de morale, qu'on a nommé, était un conscient. Et ce conscient se disait thomiste. Alors j'admirais ça. Mais l'admiration est vite tombée, vous savez. Parce qu'il n'a pas compris la différence entre Kant et la bêtise spirituelle de Thomas d'Aquin. Éclosion. Qu'est-ce qu'il y avait de particulier? La vérité est avant l'erreur, et l'amour est avant la haine. Ça semble élémentaire tout ça, hein. Mais c'est très important de détecter dans les philosophies l'ordre qui existe entre la puissance et l'acte. Est-ce qu'on juge l'acte par la puissance, ou est-ce que c'est l'acte qui permet de mesurer la puissance? Qu'est-ce qui est premier, la négation ou l'affirmation? Eh bien, de fait, dans l'histoire de notre philosophie européenne, ça c'est à la mode, dans l'histoire de notre philosophie européenne, berceau de la philosophie américaine, bien berceau, parce que quand l'Amérique aujourd'hui peut se développer toute seule grâce à son économie, alors à ce moment-là, elle nous mesure et on croit qu'il faut la suivre économiquement. On est bien forcé, mais spirituellement, attention. Toujours voir les erreurs à leur origine. On ne comprend une erreur que quand on la regarde dans son origine. Alors la haine devient première. Mais on dépend énormément des théologiens, vous savez. En Europe, ce qu'il y a de bon est quelquefois ce qu'il y a de pire. Puisque le vieux proverbe est toujours vrai, hein. Corruptio optimi pessimo. La corruption de la théologie, c'est ce qu'il y a de pire. Je sais un peu la chose. C'est la corruption de la théologie. Et la théologie montre bien que l'esprit a besoin d'aller jusqu'au bout, le plus loin possible. La théologie, c'est l'expression de ça. S'il y a un apport nouveau avec la révélation, il y a donc une connaissance nouvelle. Cosmonaute de la révélation. Il faut essayer de voir ce que ça signifie et entrer dedans. C'est la théologie. Alors, là, on voit au XIVe siècle Occam, qui est le premier à mettre la négation avant l'affirmation. Et je crois que c'est ça la modernité. Parce que c'est un ordre complètement nouveau. Totalement nouveau. Ce n'est plus la réalité qui commande tout. C'est l'imaginaire. Pour pouvoir dire que la négation est première, c'est l'imaginaire qu'on met avant tout. Ceci en passant, je parie, mais c'est une question que je me pose tout le temps. Donné d'une richesse telle qu'on peut croire. pensée. Si je suis uniquement un répétiteur, je ne pense plus beaucoup. Je dois aimer les maîtres qui ont une autorité parce qu'ils ont pensé avant moi. Je m'en sais. Des jours fastes et des jours néfastes. philosophique. Et ces nuits philosophiques sont nécessaires pour avancer. Tout de suite après cette découverte de la sagesse qui est intelligence et amour. La sagesse, c'est l'amour qui m'aide à être de plus en plus intelligent dans ma recherche de vérité. Et cette recherche de la vérité se repose dans la personne, la découverte de la personne qui m'aime. Cette sagesse va en moi, dans ma personne, prendre des orientations différentes, ce qui explique la diversité si grande des personnes. Il n'y a pas un monopole de quelque chose qui dit c'est ça la sagesse, non. La sagesse implique une très grande diversité. Et la première diversité, c'est ce que les anciens appelaient la sagesse pratique, la prudence. La personne humaine, au-delà de ces trois dimensions, exige cette quatrième dimension, qui est la prudence. Parce que la personne humaine assume le corps. Négliger le corps, ce n'est pas sage. On peut lui demander beaucoup au corps, et il le faut. On n'est pas l'esclave du corps. Hein. On assume le corps. Et le corps aime d'être assumé. Il vous lèche la main. Comme s'il est assumé, comme le petit chien. Il aime ça. Le corps n'est pas du tout la fin. Si grand qui est en moi, substantiel, qui ne me quitte pas et qui ne me quittera jamais, sauf à la mort. Et la mort n'est quand même pas le but de la philosophie. C'est la sagesse. L'union, l'harmonie entre la recherche de la vérité et l'amour. Mais il y a une sagesse pratique. Cette sagesse pratique est double. Il y a deux jumeaux. La prudence et l'art, l'activité artistique et l'activité éthique. Je ne les oppose pas, je les considère comme des jumeaux qui ne sont pas de vrais jumeaux. vous la nomme tout de suite. C'est la taille du corps. Dominer le corps pour en faire un ami. Et dominer le corps, c'est cultiver le corps. Ça fait 6 dimensions.
Mai 97, troisième conférence.
Aristote dit que la contemplation est plus qu'humaine, tout en étant humaine. Peut-on dire qu'elle est vraiment une dimension de la personne humaine ? J'en ai pas parlé. Alors, je suis en philosophie. Il faut respecter l'ordre de recherche. Il y a un premier problème métaphysique de l'analyse de ce qui est, ce dont j'ai l'expérience. Or, je n'ai pas l'expérience directe de Dieu, humainement, philosophiquement parlant. J'ai parlé de Dieu en disant que le philosophe découvre le problème de Dieu, donc ça nous le verrons demain. Mais dans les dimensions de la personne humaine, je n'en parle pas exprès. Parce que j'essaie de comprendre la personne humaine dans cette dimension de la métaphysique, pas de la théologie naturelle. Voyez bien comme ça. La métaphysique regarde ceci est en tant qu'il est et analyse ceci est en tant qu'il est. Toutes les parties de la philosophie première. Substance, acte, voilà l'analyse de ce qui est. Je n'analyse pas autre chose que ce que je contacte directement par l'expérience. expérience. Toute analyse repose sur cela. Cette expérience est plus ou moins profonde. Cette expérience regarde le « ceci » ou elle regarde le « est ». C'est très simple. Le « ceci », c'est tout ce que vous voulez. L'homme, l'araignée, ceci, c'est telle réalité existante. Et c'est le point de vue de l'être en acte. Ceci peut être une réalité possible. Elle n'est plus une réalité possible, elle est, elle existe. Et la métaphysique regarde le « et toutes les parties antérieures à la métaphysique, l'homme travaillant, l'homme ayant conscience de sa vie morale, responsable, et ainsi de suite, sont les déterminations particulières. Tandis que c'est l'être. Donc là, je suis en philosophie première. Puis, je me pose la question, y a-t-il une réalité antérieure ou supérieure à l'homme dont je n'ai pas directement conscience, directement l'expérience? Et là, c'est ce qu'on appellera la recherche, non plus de « est », mais de « Dieu existe ». Dieu est, Dieu existe. C'est théologie naturelle. La philosophie première s'achève en théologie naturelle. Et à partir de là, je suis en présence de la sagesse. Ce qu'on verra demain. Cette première partie qui reste au niveau de l'expérience. J'ai l'expérience du « je suis ». C'est mon expérience. Quand je réfléchis sur le « je suis », donc ce n'est plus ceci, mais le « je suis ». Quelle différence y a-t-il entre ceci et le je suis? C'est que le je suis, je le saisis de l'intérieur. Ceci est, ça peut être cette table, elle est extérieure à moi. Je ne dis pas, par rapport à moi, ceci est. Non, non. Et non, je dis je suis. Quelle différence y a-t-il entre les deux? C'est que là, je saisis l'être comme extérieur à moi. Et là, je saisis l'être comme intérieur à moi. Je vois donc que l'être est au-dessus de la distinction intérieure et extérieure. C'est quand même très important, ça. Et j'allais presque dire, au-delà de subjectif et objectif. C'est ça qui est important. C'est ça qui me met au-dessus des sciences. L'être, la saisie de l'être est quelque chose de premier pour ma vie d'intelligence. Et quand on oublie le premier, on ne peut plus rien ordonner. Il n'y a plus d'ordre possible. Oui, cette fameuse phrase de Thomas d'Aquin, primo cadit in intellectu ens. Je traduis, puisque nous ne sommes plus au Moyen-Âge. Ce qui tombe en premier lieu dans l'intelligence, c'est ce qui est. C'est l'être. Et le mot cadit, drôle de latin, arabe. C'est une phrase d'Avicenne. Primo cadidine, alors en arabe, je ne saurais pas le dire. Mais c'est de l'arabe. Alors, cadit, oui, ça tombe. C'est pas le latin, ça. Ça va beaucoup mieux en arabe. Ce qui tombe en premier lieu, comme dans un puits, c'est pas un petit caillou. Ce qui tombe en premier lieu, c'est l'être. Vous voyez, quand vous voyez la profondeur du puits, hein, vous jetez un caillou. Vous entendez ? Ah, voilà. Il est profond. Alors l'intelligence est profonde, c'est le petit caillou qui tombe dedans, c'est l'être. Donc elle est profonde. Primo caditine, la première chose que l'intelligence reçoit. L'intelligence est accueillante pour l'être. C'est extraordinaire. Tout ce qui n'est pas l'être, l'intelligence l'accueille en second lieu. Vous voyez, la négation est seconde. L'affirmation est première. Primo caditis ens, ens. C'est l'affirmation. Ça, c'est le vieil adage. Saint Thomas emploie cette expression. Je crois, parce que c'est des chiffres, il y a quelqu'un qui a fait une thèse là-dessus, à la Grégorienne, à Rome. Il a recueilli tous les textes où saint Thomas dit « Primo cadit intellectus sens ». C'est une thèse facile à faire. Aujourd'hui, l'ordinateur vous donne ça tout de suite. Thèse, un diplôme pour l'ordinateur. Mais il l'a fait avant l'ordinateur, donc il a au moins ce privilège. C'est vrai, il y avait un professeur à Fribourg qui disait que une thèse, ça consiste à faire la synthèse de quatre autres thèses. Et une thèse merveilleuse, c'est quand on fait la synthèse de 100 autres thèses, alors là, on a la note supérieure. C'est vrai. Dans l'ordre métaphysique, c'est rare qu'on découvre un principe nouveau. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On répète, mais on essaie de se mettre dans des points de vue différents. Vous savez, comme quand vous entrez dans une église, une petite église romane, vous pouvez entrer 100 fois dedans pour voir des points de vue différents. Alors, primo cadit intellectus ens, l'être. Bon, alors, là, vous cherchez le tiesti. Qu'est-ce ? Qu'est-ce l'être ? Pas commode à comprendre ce que ça signifie. Hein. Qu'est-ce que c'est que l'être ? L'être, substance, ce que vous avez vu. Substance, acte. Puis ensuite, vous cherchez le pos, le comment. Le comment de ce qui est. Le comment, le pos. La distinction que fait Aristote. Et donc à ce moment-là, ce n'est plus l'analyse, c'est la manière particulière dont l'être qui possède la nature humaine, l'être déterminé par la nature humaine, le ceci, c'est l'homme. C'est pour ça que le philosophe s'intéresse toujours à l'homme. Je crois qu'une donnée n'est philosophique que si elle touche l'homme. Si elle touche autre chose que l'homme, le comment de la Lune. Pouvez-vous faire une thèse philosophique sur la Lune ? Le comment de l'araignée. L'araignée a un irascible formidable. Oui, c'est très bien, ça n'avance pas beaucoup au point de vue philosophique. Tandis que l'irascible de l'homme m'intéresse beaucoup. c'est la grande passion. Oui, donc il y a toujours l'homme, le ceci est. L'homme existe, je suis. Vous cherchez ensuite le comment de cet être qui est l'homme. Le comment de cet être qui est l'homme. Parce que je ne sais vraiment quelque chose au plan philosophique que quand j'ai saisi ce qui est premier dans cet être, dans l'être, et ce qui est premier dans le comment. Comment l'homme existe-t-il ? Comment l'être que la nature humaine se présente à moi ? Il se présente comme une personne. Oh. Voilà la personne. C'est le comment de l'être, de la nature humaine. C'est vrai. L'être humain se présente à moi d'une façon très particulière. Il a 6 dimensions. Qu'on essaie d'énumérer. L'être humain, je parle bien de son être, l'être humain a cette autonomie. C'est-à-dire qu'il existe pour lui-même, c'est ça que ça veut dire. L'être humain, l'être de l'homme, il existe pour lui-même. Je n'existe pas accolé à un autre, je suis indépendant. L'autonomie, l'indépendance. L'indépendance métaphysique, c'est ça. J'existe. C'est sûr qu'il y a eu un milieu premier dans lequel j'ai existé parce que j'étais pas encore entièrement homme. Je l'étais à titre embryonnaire. J'étais bien homme dès le point de départ. Mais à titre imparfait. Et puis, quand je suis né, c'était encore à titre imparfait. À quel moment j'étais une personne ? Ah, il y a des êtres qui n'atteignent jamais ce sommet. Ils le regardent de loin. Ils sont toujours un peu dans une couveuse électrique. Toujours. Et je crains que l'humanité se terminera dans une couveuse électrique. Parce que plus on avance, plus on est dépendant. C'est vrai. On est terriblement dépendant. Bien plus qu'au Moyen-Âge. Parce que les outils sont de plus en plus parfaits. Vous avez des outils dont non seulement vous vous servez, mais vous avez des outils qui vous portent. Vous entrez dans un très grand outil, merveilleux, l'avion. Il vous porte, cet outil. C'est pour ça que vous êtes dans une situation particulière, quand vous êtes assis en avion. Vous avez bien moins d'indépendance que quand vous êtes sur le sol. Si par... imagination, vous voulez sortir, on vous interdit. Vous êtes dans une prison. Oh, vous l'avez voulu, cette prison, c'est une prison. C'est quand vous faites un très long voyage qui dure 12 heures ou 13 heures, c'est fatigant. Vous êtes un peu abruti. Surtout quand vous êtes fatigué. L'homme est de plus en plus dépendant. C'est le combat incessant de la technique et de l'esprit. Alors, c'est la qualité et la quantité. Dans le monde d'aujourd'hui, on doit se battre pour rester un tout petit peu qualitatif. La quantité, vous saisit. Commerce, ça vous saisit. La qualité, être vous-même, je suis. Vous voyez, alors, c'est le comment du je suis. Je suis homme que nous cherchons, et c'est ça la personne. La personne, c'est l'être humain dans toute sa perfection. J'ai jamais expérimenté un être plus parfait que l'être humain. Et en définitive, moi. Hein? C'est curieux. C'est vrai, parce que je m'expérimente de l'intérieur. Et je vois que l'être humain est intelligent. Mais l'intelligence des autres, je ne la vis pas. Je vis mon intelligence. Et ma plus grande expérience, c'est ça. C'est intéressant quand même ça. Et je vis l'être de mon ami. La personne de mon ami. Alors, vous voyez, grâce à mon ami, je redeviens objectif. D'une objectivité très particulière, parce que c'est mon ami. Et parce qu'avec l'ami, il peut tout me dire, tous ses secrets. Oh, j'ai non seulement les miens, mais celui de mon ami. C'est pour ça que c'est si important, l'amitié. Et ça fait partie du comment de mon je suis. L'arrondi de je suis. Se compénètrent et qui pourtant jamais ne perdent leur unité. Je ne perds jamais ma personnalité avec un ami. C'est peut-être la meilleure définition de l'ami. Je perds un peu de ma personnalité quand je suis en face d'un personnage extraordinaire. Je perds un peu, je suis quand même un tout petit peu intimidé. Heureusement du reste. Quand je sens plus ça, c'est ennuyeux. Je redeviens un enfant et je peux dire toutes les grosses bêtises. Il n'y a qu'avec un ami que vous êtes vous-même. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez dire « Ah, tu es vraiment mon ami. » C'est comme si tu n'étais pas là. Je suis toujours moi-même. C'est extraordinaire. Et pourtant, avec toi, je ne sais pas, il y a quelque chose, je n'arrive pas à définir. Je suis moi-même. Et j'ai une conscience merveilleuse d'être moi-même. Et d'être regardé par quelqu'un qui m'aime. Alors vous voyez où se situe cette recherche de la personne. Cette découverte de la personne. L'homme existe, je cherche ce qu'il est. L'homme existant, je qualifie sa manière d'exister. La personne, c'est la manière dont je qualifie ma manière d'exister. J'existe comme une personne humaine. Et quand j'ai quelqu'un qui n'est pas arrivé à ce niveau, je dis... Il n'a pas beaucoup de personnalité. Quand vous dites ça, il n'a pas beaucoup de personnalité. C'est une personne. Oui, c'est une personne. Biologiquement, c'est une personne. Psychologiquement, pas très riche. Il a la mentalité d'un gosse de 4 ans. Encore l'autre jour, on me disait ça. Je l'ai fait répéter exprès. Et alors, qu'est-ce que vous dites? Oui, j'ai la mentalité d'un être de 4 ans. Surtout, ne posez pas trop les questions, s'il ne saura plus quoi dire. Un gosse de 4 ans, mais vous mettez à son niveau et vous entrez dans son jeu. Mais une grande personne, dont la personne n'est pas plus développée que 4 ans, c'est dommage. Qu'est-ce qu'il y a eu dans sa vie? Alors vous donnez des tas d'explications. Je comprends. Ça n'a pas poussé. Ça n'a pas régressé. Ça n'a pas poussé. Alors vous voyez, s'il y avait un appareil qui montrerait exactement oui, 4 ans, 5 ans, en disant, je mettrais ici, mettez. Puis là, le. C'est vrai, on pousse. Mais on pousse de l'intérieur. Donc on est très mauvais juge. celui qui a une personnalité de 4 ans, est-ce qu'il s'en aperçoit ? Quelquefois. Alors il y a de l'espoir. Mais s'il n'en aperçoit pas, il n'y a pas d'espoir. Vous le laissez. Alors, continuons. Juste la personne. Vous voyez, je n'ai pas encore posé le problème de la découverte de Dieu. Je suis donc à ce niveau-là. À ce niveau. Je n'ai pas encore découvert l'existence de Dieu. C'est à partir, on le verra demain, c'est à partir de la personne que je découvre Dieu. Ne cherchez pas à découvrir Dieu à partir du petit caillou. J'ai vu quelqu'un comme ça une fois, un étudiant à Fribourg. Il dit, ah, ce petit caillou, il me fait penser à Dieu. Dans la vie religieuse, il y en avait qui faisaient leur méditation en face d'un crâne. Ça leur faisait penser à Dieu. Peut-être un dieu morbide. Ou un petit caillou, un dieu résistant. Pourquoi pas ? On a une réalité qui est toujours avec nous. Toujours avec nous. Je suis. Pourquoi pas ? Pensez Dieu. Chercher Dieu à partir de soi. Je suis métaphysique. Ça, on verra ça demain. Mais simplement pour vous dire que je cherche ce qu'est la personne humaine avant d'avoir découvert l'existence de Dieu. C'est très important. Parce que je ne dis pas, pour être une personne, il faut être un chrétien. Non. Ah, ça donne une nouvelle dimension à la personne, oui. Mais la personne humaine, c'est l'homme qui expérimente l'homme. C'est l'homme qui cherche à savoir ce qu'est l'homme et qui peut découvrir ses dimensions. De sorte que je crois qu'on peut dire que lorsque je découvre Dieu, je découvre une nouvelle dimension à la personne humaine. Et si je suis chrétien, catholique, au surplus, si je suis chrétien, je découvre encore une nouvelle dimension. C'est ça qui est très curieux et qui est très intéressant. C'est toujours la même nature. La grâce ne détruit pas la nature. Donc, disons, la grâce ne détruit pas la personne humaine, mais elle lui donne une nouvelle possibilité. Et donc, il y a un développement nouveau de la personne chrétienne. Mais, faisons attention, quand je dis qu'elle lui donne une nouvelle possibilité, un nouveau champ de recherche, la personne chrétienne. Il faut d'abord savoir ce qu'est la personne. Vous savez, c'est tout le grand problème que on touchera peut-être demain, si on a le temps, de la philosophie chrétienne. Y a-t-il une philosophie chrétienne ? Y a-t-il une métaphysique chrétienne ? Est-ce que mon être, que j'expérimente, est changé par la grâce ? Non. Il peut y avoir un déséquilibre terrible dans ma personne. Au contraire, je suis peut-être un génie. Ça n'a rien à voir avec la grâce. Avec tout lui. disait « L'homme est né de Dieu et de l'univers ». Et c'est vrai, tout l'univers coopère. Et aujourd'hui, on s'en aperçoit. La mer est, fait partie de l'univers. Elle coopère, et le Père aussi. Et donc, tout l'univers coopère à sa manière pour la naissance d'un enfant. Il ne crée pas l'âme, c'est Dieu qui crée l'âme, directement, comme créateur. Mais Dieu se sert de l'homme pour qu'il soit père. Il se sert de la femme pour qu'elle soit mère. Et avec l'homme et la femme, il se sert de tout l'univers. Il pourrait très bien se faire, voyez, que dans certaines circonstances particulières, l'homme aimant les expériences, sans savoir très bien jusqu'où ça va le conduire, puisse y avoir un déclic dans notre univers, dans notre atmosphère, qui fasse qu'il n'y ait plus de fécondité. L'univers joue un rôle. Tu l'as voulu comme ça. Un rôle minime, peut-être, de l'ordre de la disposition, de l'ordre du comportement, mais quand même. C'est très curieux, ça. Voir la dépendance de l'homme, comme personne, avec l'univers. C'est pour ça que je mets la dimension homme, je mets la dimension du corps dans la personne humaine. Par le corps, je suis une partie de l'univers. Et l'univers est mon tout. Par mon corps. Je ne suis pas totalement indépendant de l'univers. Je suis toujours dépendant de ce milieu particulier. Et si on touche certains éléments de notre atmosphère, de notre univers, on peut faire des choses qu'on n'a pas voulu. On a joué avec le feu. Vous savez les gosses qui jouent avec le feu. Quand un gosse joue avec le feu, il ne sait pas avec quoi il joue. Si vous avez dit, touche pas. Ou bien quand il veut toucher l'électricité, les choses, il y a deux trous, en fait, ça met son doigt dedans. Mais non, ne fais pas ça. Tu ne sais pas ce qui arrivera. Oh, tiens, tiens. Nous, on dit aussi un peu comme ça. Hein. Touchez pas trop à l'atmosphère. On ne sait pas trop ce qui arrivera. C'est vrai. On voit les effets. C'est un peu trop tard. Parce que c'est difficile de raccommoder l'atmosphère. C'est pas commode. Hein. Ça nous dépasse. Vous voyez, ça, on touche. Et c'est peut-être la chose merveilleuse d'aujourd'hui. C'est qu'on touche à des éléments fondamentaux de notre univers, de notre monde physique, qui fait que chemin interdit, cul-de-sac, ça a été trop loin, vous êtes amusé trop, sans trop savoir ce que vous avez fait. Alors on interdit vite ces expériences. Faites plus ça. Oui, mais les autres pays l'ont fait, on doit le faire aussi. Oui, exactement le gosse, le raisonnement du gosse. C'est pour mourir, ils vont mourir tous ensemble, c'est mieux, c'est plus agréable. C'est curieux, on touche aujourd'hui à des éléments qu'on ne peut regarder que si on a un souci de toucher la réalité dans ce qu'elle a de plus profond. L'être, la métaphysique devient une chose nécessaire pour saisir certains problèmes devant lesquels on est. saisir la distinction du tiesti et du pos de la personne humaine et de voir comment la personne humaine a cette chose très, très curieuse. Alors, voyez, avec la découverte de Dieu, on découvre une nouvelle dimension de la personne humaine. La personne humaine dans sa dépendance à l'égard de Dieu, qui reconnaît cette dépendance et qui adore. Et on a la septième dimension. C'est pas pour avoir le chiffre 7, hein. Mais c'est quand même curieux. La septième dimension. Tant que je n'ai pas découvert Dieu, j'ai la dimension 6. Alors, vous savez bien qu'il y a un chiffre particulier dans l'écriture. 6, 6, 6. Comme je suis heureux de vivre 6. Comme j'en suis heureux. Oui, attention. Ça, c'est un petit peu à côté. Hein. Ça risque de devenir poétique. Mais après tout, c'est pas si mal. Dès qu'on dépasse 6, on touche quelque chose de très très profond, le lien à l'égard de Dieu. Et on voit que une personne humaine n'est parfaitement personne humaine que quand elle a découvert l'existence de Dieu et qu'elle adore le Créateur. La laïcisation poussée à l'extrême n'est pas un progrès, c'est un recul. Il faut appeler les choses par leur nom. Ça recule, parce que, humainement parlant, je peux aller jusqu'au bout. Et donc, je dois y aller jusqu'au bout. Si je suis incapable d'y aller par moi-même, je donne la main à ma maman. Je vais monter plus haut. Je donne la main à mon père, qui a découvert ça. Mais si on dit, ah non, 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 je suis indépendant, je suis indépendant. Je n'accepte que ce que j'ai découvert. Si vous répétez ça un certain nombre de fois, on dit, oh, fais ton expérience. Mon petit, tu verras. Tu n'iras pas très loin. Je crois que le rôle du philosophe dans le monde d'aujourd'hui, c'est de découvrir que l'homme est capable de découvrir l'existence de Dieu. Donc, en poussant la recherche de la personne humaine, de voir c'est très bien, ces 6 dimensions de la personne humaine. Il y en a une 7e. Alors pour pouvoir dire ça, il faut d'abord connaître les 6. Alors, on m'a posé la question, c'est pour ça que j'ai dit ça, comment pouvez-vous découvrir ces dimensions de la personne humaine en vous servant de toute la philosophie antérieure. Et c'est vrai. Pour vous dire ce que je vous ai dit, je mets en service, j'utilise toute ma philosophie. La distinction de l'âme et du corps, c'est une recherche philosophique. Toute la philosophie de Platon, ça a été la recherche de l'âme. Les grandes traditions religieuses qui me parlent de l'âme, parlent-elles d'un mythe ou parlent-elles d'une réalité? C'est quand même une grande question, ça, philosophique. Est-ce que les traditions religieuses qui parlent d'une âme sont souvent créées par Dieu? Est-ce que c'est un mythe, c'est-à-dire une invention humaine, une invention poétique? Le philosophe vie qui relève ce qui est mythe, un mythe imaginatif, poétique, et qui découvre la réalité. C'est très important, ça. Et c'est une manière pour moi de découvrir l'importance de la philosophie et de la philosophie première aujourd'hui. On est constamment en face de mensonges, les propagandes. On a une peine énorme à découvrir ce qui est vrai dans ce qui se dit. On ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas pourquoi on le dit. Oui. Comme dans les périodes de suffrage universel. Qu'est-ce qui est vrai ? Si on avait le caractère vrai, on voterait autrement. On manipule les gens. Et dans notre monde d'aujourd'hui, c'est affolant quelquefois de se dire quelqu'un qui n'a pas eu de culture, qui n'a pas possibilité de réfléchir sur les réalités, plus que jamais, il est un esclave. Il est l'esclave de ce qu'on veut qu'il avale. Et on lui dit, marchez. Et donc, une distinction très grande et très importante au plan philosophique, c'est peut-être pour ça que la philosophie est nécessaire. Distinguer le mythe de la réalité. Quand je parle de Dieu, est-ce que c'est un mythe ? Quand je parle de l'adoration, est-ce que c'est un mythe ? Est-ce que c'est une drogue qui permet aux personnes d'adorer Dieu ? Pendant ce temps-là, elles ne font pas de mal. Maintenant, cette caste particulière des religieux sont des gens naïfs qui prétendent adorer Dieu. Ils font pas de mal, ils sont bons. Ils ont lutté contre leur irascible. Ils n'ont pas de fusil en dessous de leur oreiller ou simplement de revolver. Ils ne tuent pas trop de monde. Maintenant ça, dans un pays, ça maintient un certain équilibre. C'est vrai. Voyez. L'équilibre de la fin du cours, le religieux est fait pour ça, bien net. Hein, ça. Oui, est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est une réalité ? Mais pour toute chose aujourd'hui, je me souviens, ce brave Écossais, à Fribourg, revenant me voir, étant marié, étant ayant un métier. Je dis, vous m'avez appris, mon père, à chercher la vérité. Mais je suis toujours dans le mensonge. Parce que je fais la propagande du dernier chose qu'on a découvert. Et je récite un mythe. Je sais très bien que c'est pas vrai. Mais je gagne ma vie grâce à ça. Alors il me posait la question, est-ce que j'ai le droit de le faire ? La philo maintient notre autonomie intellectuelle. Pas très grande, mais un tout petit peu. Pour les choses essentielles, pour être un homme vrai. Alors voyez, c'est ça que je voudrais que vous compreniez, que toutes les parties de la philosophie de l'art, la philosophie éthique, la philosophie politique, la recherche de ce que c'est que la matière, la recherche de ce que c'est que le vivant, tout cela m'aide à comprendre ce qu'est la personne humaine. Alors, si je n'ai pas découvert la distinction de l'âme et du corps est une distinction classique, mais qui a toujours eu de la peine à être comprise, parce que à la place de mettre la distinction de l'âme et du corps, on met la séparation de l'âme et du corps. Petite distinction à faire, absolument nécessaire. Mon intelligence analyse, elle distingue. Et je prends les choses dans la main, je sépare. Vous voyez, quand l'intelligence se transforme en pouvoir, elle sépare. Et toute distinction devient une séparation. C'est terrible. On tombe dans un positivisme absolu. L'analyse distingue. Et pour creuser, pour mieux voir, pour mieux saisir, la première distinction sur laquelle repose ce qu'est la personne humaine, l'âme et le corps, c'est capital. Le composé humain, l'homme est un être complexe. Et la première distinction fondamentale en lui, l'âme, source d'autonomie, le corps, limite de mon autonomie, par mon conditionnement. Je ne peux pas, à partir de là, dire, donc, je nie le corps. Pas du tout. Si vous faites ça, vous n'êtes plus dans la vérité. Et donc, vous ne comprenez plus rien. Vous acceptez l'erreur. Vous acceptez le mensonge. J'ai une réalité qui s'appelle le corps. Et cette réalité fait partie de mon être. De mon être. Le corps fait partie de mon être. Et donc, le nier, c'est me mettre dans une situation de quelqu'un qui ne peut plus savoir ce que c'est que la nature humaine. Alors, il essaiera par 36 moyens de montrer que le corps, c'est rien du tout. Le corps, c'est quelque chose. Et le corps est source de tout mon conditionnement humain. Et par le corps, je dis qu'il y a un conditionnement substantiel. C'est-à-dire, je ne peux pas nier ce conditionnement. Ce conditionnement fait partie de ma personne humaine. Et donc, ceci présuppose toute la philosophie du vivant où j'ai distingué l'âme et le corps. Philosophie du vivant. Ensuite, je regarde dans mon âme, l'esprit, et je vois que c'est la partie principale. Avoir l'autonomie pour l'autonomie, ça signifie rien du tout. Je ne saurais pas quoi en faire. J'aime l'autonomie, j'aime l'indépendance pour chercher ce qui me finalise. J'ai tout de suite deux grands aspects. La matière. Je ne peux pas descendre plus bas. La cause matérielle. Et mon corps est lié à cette cause matérielle. Qui me montre le comment fondamental. Et puis,